Le terme d'intelligence artificielle générale est mal défini, et pourtant, je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que, un jour, la communauté scientifique s'accordera sur le fait que l'on a atteint un palier d'intelligence que l'on peut assimiler à de l'intelligence artificielle générale. Ce ne sera dès lors pas la méthode utilisée qui permettra de trancher sur le palier qui est atteint, mais bien les résultats, les performances et les problèmes que l'IA sera capable de résoudre dans les prochaines années qui permettra d'attester le fait qu'on en a franchi ce palier. A contrario, c'est bien un ensemble de méthodes, connues ou inconnues, qui permettraient de franchir de nouveaux paliers d'intelligence et pourquoi pas un jour d'atteindre l'AGI. Dans cet épisode, mon objectif ce n'est pas de vous donner une recette de l'AGI, mais plutôt de vous introduire à l'un des concepts qui, je pense, est extrêmement important pour espérer un jour atteindre le terme d'intelligence artificielle générale. D'ailleurs, une sous-partie de la proposition que je vais vous faire aujourd'hui a de grandes chances de se retrouver dans les prochaines releases d'OpenAI, la version 4.5 ou la version 5, qui sait, pourrait potentiellement même inclure l'ensemble des concepts ou une version modifiée des concepts que je vais introduire dans cet épisode. Bien sûr, ne prenez pas cet épisode comme une prédiction, mais plutôt un concept qui, pour sûr, devrait potentiellement être inclus dans une intelligence artificielle générale. Je n'ai pas de boule de cristal, par contre, je vous partage simplement mon analyse de la situation actuelle et une prochaine étape majeure que l'on pourrait voir se déployer dans ce type de modèle. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode, vous pouvez le retrouver ici sur YouTube, mais aussi sur les plateformes de podcast habituelles pour une écoute audio. Aujourd'hui, on va parler d'un des ingrédients pour atteindre l'intelligence artificielle générale. Une première question que l'on peut se poser et qu'on peut imaginer pour s'introduire à ce concept, c'est se demander comment est-ce qu'on voudrait qu'un modèle de langage se comporte lorsqu'on lui demande, d'une part, quelle est la capitale de la France, et d'autre part, est-ce que tu peux me décrire le théorème d'incomplétude de Gödel. La première question relève d'une réponse assez simple sur laquelle le modèle aurait peu de chances de se tromper, et où en tout cas il est pour sûr, on n'aurait pas besoin d'énormément de puissance de calcul pour répondre à cette question. Par contre, sur la deuxième question, il y a un point intéressant, c'est que certes, le modèle pourrait essayer de recracher l'ensemble des informations qu'il a à propos de ce sujet simplement en l'ayant mémorisé, donc il a pu mémoriser de l'information pour répondre à cette question. Par contre, il est possible, vu la complexité du problème, que le modèle ait besoin de prendre un peu plus de temps pour vérifier sa réponse, pour être sûr que les différentes étapes lorsqu'il décrit le théorème d'incomplétude soient correctes, pour s'assurer qu'il délivre un message correct. Et lorsqu'on y pense, c'est à peu près la même chose lorsque l'on va demander à un modèle de nous aider sur une tâche de programmation. On voudrait non pas seulement qu'il nous recrache de manière intuitive une possible solution au problème qu'on lui demande, on voudrait qu'il prenne un peu le temps de se dire « Ok, attends, je vais vérifier les différentes étapes que je suis en train de te proposer, j'ai ma propre simulation de mon côté, mon propre éditeur de code, j'ai mon propre manière de le compiler, et je vais pouvoir vérifier, même pourquoi pas en faisant un test unitaire, que ça fonctionne en effet correctement, et à la fin, je peux même te donner l'ensemble de mon raisonnement ou te donner directement une réponse. » Et on serait probablement tous en accord à se dire qu'on préférait attendre peut-être une minute ou deux minutes avant d'avoir une réponse, au lieu de simplement avoir une réponse en moins d'une seconde, mais qui est fausse. Et si on imagine un jour un modèle nous aider à résoudre des problèmes qui n'ont pas encore été résolus par l'humanité, qui est un des objectifs, je pense, d'une intelligence artificielle générale, on voudrait pouvoir avoir cette propriété de se dire on est d'accord pour te donner de la puissance de calcul pendant un mois pour réfléchir à un problème et explorer les différentes possibilités pour le résoudre, si à la fin, tu as réussi à résoudre ce problème. La question donc évidente, c'est comment est-ce que l'on fait pour laisser un modèle réfléchir à un problème plus longtemps ? Cette tendance à utiliser des modèles et leur laisser penser plus longtemps ou même utiliser une mémoire tampon pour stocker de l'information pour résoudre le problème qu'ils essayent de résoudre, elle n'est pas nouvelle. On voit l'émergence de ce type d'approche récemment dans beaucoup de papiers, notamment récemment dans le papier Vision Transformers Need Registers. C'est un papier intéressant qui nous montre qu'un VIT, lorsqu'il est utilisé pour l'analyse d'images, c'est une architecture de type Transformers mais pour l'analyse d'images, il va stocker de l'information dans des tokens qui lui semblent inutiles. Par exemple, le ciel, qui a un pattern très répétitif, n'a pas besoin d'énormément d'informations pour le modèle. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser certains tokens du ciel pour aller stocker de l'information. Et au début, les chercheurs regardaient ces tokens, les maps d'activation du réseau, et se disaient « Mais pourquoi est-ce qu'il y a des tokens spécifiques qui s'activent aussi fort, de manière aussi forte dans le ciel ?» Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ce type de modèle avait besoin, et on pouvait améliorer les résultats en leur donnant des tokens spécifiques pour simplement stocker de l'information pour les aider à résoudre ensuite la tâche qu'ils essayent de résoudre en stockant de l'information globale. C'est à peu près la même chose également sur le papier Think Before You Speak, Training Language Model with Post Token. Ici, l'objectif dans ce papier, c'était d'essayer d'analyser si ça pouvait aider un modèle de langage de stocker de l'information dans des espaces latents avant de générer le prochain token. Donc au lieu de générer un espace latent qui directement est utilisé pour pouvoir prédire un token, donc le prochain mot, ou une sous-partie de mot, ici, ce que le modèle va faire, c'est qu'il va stocker de l'information dans des espaces latents qui ne seront pas utilisés pour prédire des mots, mais qui permettront à un moment donné d'être utilisés pour prédire le prochain mot. Ce qui donne en quelque sorte une sorte de mémoire de travail pour le modèle, pour essayer d'agréger un peu d'informations avant de générer le prochain mot. Ces papiers, ce sont simplement des tendances qui nous montrent qu'il y a quelque chose à exploiter pour pouvoir réfléchir à un problème plus longtemps, stocker de l'information temporaire avant de donner une réponse finale. La question, c'est comment est-ce qu'on peut définir un mécanisme qui nous permet d'analyser un problème, d'y réfléchir plus longtemps avant de donner une réponse. Et pour ça, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que l'on a besoin d'un processus d'exploration du problème en explorant des possibles, vérifier si les possibles sont en effet concrets, intéressants à utiliser, et est-ce qu'ils nous rapprochent d'une solution finale pour le problème qu'on souhaite résoudre. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on peut pour ça utiliser ce qu'on appelle les hallucinations. Les hallucinations, c'est quelque chose qui est généralement minimisé, qu'on essaye de minimiser lorsqu'on met un modèle en production. Par contre, paradoxalement, si l'on souhaite faire un modèle qui soit efficace à raisonner en explorant des possibles pour enfin essayer de converger vers une solution finale, on a envie d'avoir des hallucinations parce que les hallucinations sont un processus cognitif que l'on utilise en tant qu'humain pour pouvoir ensuite les sélectionner, les confronter au monde réel et les utiliser comme solution à des problèmes que l'on souhaite résoudre. Ce concept qui consiste à générer des possibles et de sélectionner ensuite dans l'ensemble des possibles la solution qui semble répondre au mieux au problème, c'est notamment ce qui a été réalisé dans le papier « Let's verify step by step », qui est un papier qui d'ailleurs a été réalisé par des chercheurs d'OpenAI et qui d'ailleurs ici nous montre et nous permet d'envisager la prochaine étape pour OpenAI dans des modèles tels que la version 4.5 et la version 5. Parce que ce qu'ils font dans ce papier, c'est qu'ils vont essayer de reposer sur un reward model, donc un modèle de récompense, qui permettra d'analyser l'ensemble des solutions et des raisonnements générés par un modèle pour essayer de voir celle qui est la plus cohérente. Ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent à un premier modèle de générer un ensemble d'étapes de raisonnement qui permet ensuite, à la fin, de converger vers une solution finale. Et le reward model, le modèle à récompense, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer soit d'analyser la sortie, simplement de dire « cette sortie, je pense qu'elle est bonne » ou « je pense que les étapes intermédiaires de raisonnement sont bonnes » et la réponse également est à la fin. Et ce qu'on voit en fait dans ce papier, c'est qu'ils testent ces deux approches, ce qu'ils appellent le PRM, Processus Supervised Reward Model, ou modèle de récompense avec supervision du processus, je garderai le terme PRM, et le terme ORM, Outcome Supervised Reward Model, ou modèle de récompense avec supervision de la sortie, je garderai ici le terme ORM. Ici, le PRM est donc entraîné à superviser l'ensemble du processus et essayer d'avoir une opinion sur chaque partie du processus pour se dire ça c'est une bonne étape de raisonnement, ça c'est une bonne étape de raisonnement, et en effet, derrière, la réponse est correcte. Le ORM, de son côté, lui, va analyser seulement la sortie pour dire « je pense que la sortie, la réponse qui a été donnée au final est correcte pour répondre au problème à la question qui a été posée ». La conclusion de ce papier, c'est que le PRM a tendance à être meilleur que l'ORM, notamment parce qu'il a appris à superviser les processus de raisonnement. Mais je pense qu'il y a une conclusion encore plus importante, mais qui était à peu près cachée en quelque sorte dans le papier, ou en tout cas, ce n'était pas l'élément principal d'attention. C'est le fait qu'une fois que l'on a en effet ce modèle de récompense qui est capable de superviser des raisonnements, on peut commencer à utiliser le modèle génératif pour pouvoir s'entraîner lui-même avec comme feedback le modèle de récompense pour pouvoir faire en sorte que le modèle génératif satisfasse le modèle de récompense. Et c'est d'ailleurs ici, je pense, qu'on pourrait voir une meilleure version de ChatGPT qui utilise dans la version 4.5 ou la version 5 cette combinaison de PRM avec un modèle génératif qui apprend à raisonner et à résoudre des problèmes step by step en vérifiant correctement ces différents raisonnements en utilisant le PRM. On pourrait même d'ailleurs imaginer une version récursive de ça où on a un modèle génératif qui génère énormément de possibles pour résoudre un problème et qu'on ait un modèle PRM qui utilise l'ensemble de ces raisonnements en vérifiant les étapes étape par étape et que seulement la meilleure des solutions soit délivrée à l'utilisateur qui a posé la question. Cependant, ici, je pense qu'il reste deux problèmes qui doivent être résolus et qui, s'ils sont résolus, pourraient permettre d'envisager des modèles capables de raisonner pendant des heures, pourquoi pas des jours, sur un problème, à chercher des solutions possibles, presque à brute forcer, mais de manière intelligente, le problème, en explorant des possibles, mais en vérifiant étape par étape, non pas avec un reward model, mais avec un oracle. Ici, le modèle de récompense utilise des annotations humaines pour apprendre. Ce que ça veut dire, c'est premièrement, le modèle de récompense n'a pas la possibilité de progresser par lui-même. Le modèle génératif qui s'entraîne avec le modèle de récompense ne pourrait pas non plus surpasser le modèle de récompense à un moment donné. Au lieu de ça, ce que l'on voudrait, c'est de faire en sorte que les deux modèles co-apprennent ensemble. Au fur et à mesure que le modèle génératif se rapproche des capacités du modèle de récompense, on voudrait que cela permette de débloquer des nouveaux chemins d'exploration qui permettent ensuite au modèle de récompense de continuer à apprendre et vérifier par lui-même, sans annotation humaine, que ses nouveaux raisonnements sont bons. Et pour ça, ce qu'il nous faut, c'est une simulation qui soit designée pour faire en sorte que ces deux modèles, le modèle génératif et le modèle à récompense, cohabitent pour pouvoir explorer l'environnement, l'un qui explore si les solutions sont correctes, un autre qui explore, qui fait en sorte de générer des choses correctes du point de vue du modèle à récompense. Et c'est la symbiose entre ces deux modèles avec une combinaison avec l'oracle, et ici même le modèle de récompense pourrait d'ailleurs apprendre à l'inférence à utiliser l'oracle pour vérifier au fur et à mesure que les étapes de calcul, de raisonnement sont correctes dans la limite du possible ou dans la limite que l'oracle permette de vérifier certaines étapes intermédiaires. Et grâce à ce processus récurrent, on pourrait à la fin laisser le modèle réfléchir pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs mois, pour faire en sorte de résoudre des problèmes extrêmement complexes. Et ici, c'est un point qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de la capacité et l'intelligence d'un humain pour pouvoir résoudre des problèmes qu'un humain n'aurait pas réussi à résoudre par lui-même, la raison étant que ce type de modèle, même s'ils auraient une intelligence inférieure, prendrait énormément de temps pour réfléchir au problème, testerait énormément de solutions sans s'épuiser et pourrait au final converger vers des solutions que même l'humain le plus brillant n'aurait pas réussi à trouver simplement parce qu'il n'y aurait pas passé autant de temps. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, ce que vous en pensez de ce problème et même si vous avez d'autres pistes qui permettraient de le robustifier ou pourquoi pas même si vous avez d'autres idées qui vous semblent intéressantes pour atteindre l'AGI, je pourrais également continuer à faire ce type d'épisode si cela vous plaît sur les différents ingrédients possibles pour atteindre l'intelligence artificielle générale. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et en attendant, je vous dis à la prochaine.